Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel épisode Am Bistro Matavox. Je m'appelle Marielle Orfassarelegui et on se retrouve aujourd'hui avec notre journaliste Fabien Grasser. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Fabien, cela fait des mois que tu couvres un sujet qui impactera les droits humains ainsi que la protection de l'environnement, mais dont on ne parle pas beaucoup dans la presse nationale. Il s'agit de la directive du devoir de vigilance, une loi qui a été négociée au niveau européen, non sans beaucoup de polémiques, il faut le dire, et qui doit maintenant être transposée en loi nationale. Fabien, pour commencer, c'est quoi la directive sur le devoir de vigilance ?
La directive sur le devoir de vigilance, c'est un texte qui doit obliger les multinationales, donc les plus grandes entreprises, à veiller à ce que les droits humains et les droits environnementaux soient respectés dans leurs activités. Alors quand on parle de leurs activités, c'est leurs activités directes, mais aussi celles de leurs sous-traitants, de tous leurs partenaires commerciaux, etc. Donc ça, c'est le devoir de vigilance. C'est le respect des droits humains et de l'environnement qui est aussi un droit humain, c'est-à-dire le droit à vivre dans un environnement sain. Pour donner quelques exemples, on a au Luxembourg des multinationales qui exploitent par exemple des mines de fer au Mexique où ça ne se passe pas forcément très très bien et il y a les droits humains qui ne sont pas respectés, il y a de la pollution, etc. On a des plantations en Afrique aussi avec d'autres entreprises. Donc la question, c'est comment faire respecter ça et le devoir de vigilance. Le principe, c'est on peut poursuivre l'entreprise dans le pays où elle a son siège. C'est-à-dire que si elle commet des infractions au Mexique, les victimes sont fondées à demander réparation au Luxembourg si le siège est au Luxembourg, en France si le siège est en France. Voilà, ça c'est un peu le devoir de vigilance. Alors au niveau de la directive, comment ça s'est passé? En fait, ça s'est passé en deux temps. Il y a eu des négociations assez courtes pendant 3 ans pour arriver à une première directive qui a été adoptée en mars 2024, bon, qui était loin d'être parfaite, mais bon, voilà, qui satisfaisait notamment toutes les ONG qui sont mobilisées sur la question des droits humains, avec des progrès à faire. Mais c'est évidemment un texte qui n'a pas beaucoup plu au patronat et au big business. Donc il y a eu une espèce de contre-offensive du patronat d'une part, qui a pu trouver un terrain favorable à la Commission européenne, qui a donc dégainé ces fameuses directives omnibus, qui sont donc des directives qui sont censées donner plus de compétitivité aux entreprises européennes en simplifiant les procédures. Donc, en fait, il y a une deuxième version de cette directive devoir de vigilance qui a été adoptée par le Parlement en décembre dernier à la faveur d'une alliance entre la droite conservatrice et l'extrême droite. C'est une directive qui est beaucoup plus pro-business, qui déresponsabilise un peu les entreprises par rapport aux droits humains. Cette directive a été définitivement adoptée il y a quelques jours par les États, donc elle entre en vigueur. Comment ça s'est passé? Il y a eu un intense lobbying du business, de l'industrie notamment, parce que c'est souvent l'industrie qui est concernée, notamment l'industrie extractive, qu'elle soit minière, qu'elle soit dans les énergies fossiles. Et donc, il y a eu un intense lobbying pour revenir sur un certain nombre d'acquis de la première version de la directive.
Donc, si la directive a été affaiblie, c'est suite à ce lobbying. Il y a bien eu un rapport qui a été publié par une organisation néerlandaise du nom SOMO qui apporte plus de détails sur ce lobbying.
Voilà, donc début décembre, à peu près 2 semaines avant ou 1 semaine avant l'adoption par le Parlement de la nouvelle version, ils ont effectivement sorti un rapport donc, qui est basé sur une fuite de documents qu'ils ont eu. SOMO est une ONG qui existe depuis le début des années 70, je crois, et qui est spécialisée sur la recherche sur les multinationales. Ils sortent régulièrement des trucs très très intéressants. Et donc là, ils ont sorti un rapport qui explique qu'il y a 11 multinationales dont 8 américaines, essentiellement dans le domaine des énergies fossiles, pétrole, gaz, qui en fait ont monté une table ronde sur la compétitivité. Ils ont fait appel à des agences de communication et de conseil pour se cacher en fait derrière eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas avancé de façon découverte, ils n'ont pas avancé à visage découvert, ils étaient cachés. Et ce rapport, donc, il explique un certain nombre d'événements qu'ils ont pu faire, par exemple à Bruxelles, mais aussi comment ils ont approché un certain nombre de personnes dans les institutions européennes, mais également dans les pays. Alors dans les pays, en fait, dans les pays membres de l'Union européenne, pour essayer de les convaincre de revenir sur la première version de la directive, chaque entreprise, en fait, ciblait un pays. Et ce qui apparaît dans le rapport, c'est que le Luxembourg, donc les personnalités, les décideurs politiques étaient ciblés donc par une multinationale américaine qui s'appelle Core Incorporation, c'est aussi connu comme Core Industry. C'est des gens qui sont essentiellement autour du pétrole. Alors, ce n'est pas forcément des gros extracteurs, mais ils sont dans le service à l'extraction. Ils sont aussi dans la fabrication de pesticides, beaucoup de choses qui tournent autour du pétrole. Et donc, Somo affirme que cette entreprise est la ciblée des décideurs politiques luxembourgeois, le gouvernement, pour dire les choses comme elles sont, pour essayer de les convaincre d'affaiblir cette première directive. Ça, c'est sorti. Suite à ça, il y a eu des questions parlementaires. Il y a eu une question parlementaire de Sam Tanson qui a interrogé le gouvernement là-dessus. Il y a une première réponse où le gouvernement a botté en touche.
Oui, justement, à la suite de la publication de cette enquête de Somo, tu as contacté toi aussi plusieurs ministères. Comment est-ce que le gouvernement a réagi sur ces révélations? Qu'est-ce qu'il dit?
En fait, on était plusieurs à poser un peu les mêmes questions à divers ministères parce que c'est un dossier un peu transversal qui concerne l'économie, la justice, puisqu'on parle aussi de législation. Donc effectivement, il y avait eu cette question de Sam Tanson où qu'elle avait adressée à Alex Delès, le ministre de l'économie, où elle a eu, à vrai dire, une non-réponse. Enfin, c'était de la langue de bois pure et simple. Suite à ça, elle a posé une deuxième question. Pour les socialistes, Franz Fayot a aussi posé des questions là-dessus. Moi également, j'ai contacté les ministères. Ils ont fait un demi-aveu, en fait. Hein. Mais c'est un peu un jeu de piste, cette histoire, parce qu'il faut croiser les réponses aux différentes questions parlementaires, les réponses que moi j'ai eues, pour comprendre qu'il y a bien eu, visiblement, un rendez-vous entre l'ex-Delès et des représentants donc, de cette multinationale américaine qui s'appelle Core. Ils ne le disent pas franchement, mais en recoupant les différentes réponses aux questions, on arrive à déduire cela. Il y a un vrai manque de transparence. On sent bien qu'il y a une vraie gêne par rapport à ça. Bon, la suite, c'est effectivement qu'il le reconnaît à moitié et il dit c'est normal aussi de rencontrer des gens. Et c'est vrai, quoi. Hein, c'est pas interdit. Le lobbying n'est pas interdit. Hein. Par exemple, les députés disent assez facilement c'est toujours intéressant de connaître les positions des uns et des autres. Parfois, ça nous fait varier. Mais là, ce qui est extrêmement curieux, c'est qu'ils veulent en fait pas vraiment le reconnaître. Enfin, ils le reconnaissent à demi-mot. Ils avancent cachés, tout comme les lobbyistes. Alors, les ministres, tout comme les hauts fonctionnaires, les conseillers de gouvernement, normalement, sont obligés de noter tous leurs rendez-vous dans ce qu'on appelle un registre des entrevues, qui est public, qu'on peut consulter sur les sites internet du gouvernement pour savoir qui ils ont vu, qui ils ont reçu. Or, ce rendez-vous, qu'ils ont quand même fini par plus ou moins reconnaître, il est noté nulle part. Et quand on regarde, par exemple, le ministre de l'économie, l'ex-Delès, le dernier rendez-vous qu'il a officiellement eu selon ce registre, il date de juin 2025. Et le registre de ses conseillers de gouvernement, c'est mars 2025. Donc ça voudrait dire quoi? Que tous ces gens, depuis mars et juin 2025, ils n'ont rencontré personne. Personne n'y croit, hein, voilà quoi. Donc là, il y a aussi une question qui se pose sur la transparence de ce registre, où en fait on se rend compte que ils y mettent un peu ce qu'ils veulent et ça dépend des ministres. En tout cas, si on regarde l'ex-Delès, depuis juin 2025, il n'a rencontré absolument personne, ce qui est évidemment pas crédible.
Oui, selon ce manque de transparence soulève plusieurs questions. Quelle est la suite pour le devoir de vigilance maintenant, Fabien?
Maintenant, la suite, c'est que la directive telle qu'elle est, elle a été adoptée de façon très simplifiée. Pour expliquer un peu comment est-ce qu'elle a été simplifiée, au départ, cette directive, elle visait toutes les entreprises de plus de 1000 salariés qui réalisaient un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros. La nouvelle directive, maintenant, c'est plus que les sociétés de plus de 5000 salariés, donc ça a considérablement réduit le nombre d'entreprises qui sont concernées par cette responsabilisation par rapport aux droits humains. Les amendes aussi, en cas d'infraction, ont changé. Et vraiment, c'est un changement en faveur du business. passe. Maintenant, la suite, il faut bien discuter, il faut bien élaborer, il faut bien la transposer. Donc, les États membres, ils ont jusqu'en juillet 2028 pour transposer cette directive en droit national. Le gouvernement y travaille, le ministère de l'économie, visiblement il y a des fonctionnaires qui travaillent à faire un avant-projet de loi. Et il y a également des réunions avec d'une part des représentants du patronat, d'autre part des représentants de la société civile, notamment ce collectif qui s'appelle Initiative pour un devoir de vigilance et qui regroupe 16 ONG qui se bat pour une loi qui soit la plus ambitieuse et la plus protectrice possible par rapport aux multinationales. Une des grandes questions qui se pose aujourd'hui, c'est qui va contrôler les multinationales ? Qu'est-ce qu'il y aura comme autorité de surveillance, de contrôle et éventuellement de sanctions ? Là, on sent bien que les avis sont pas forcément partagés. Le ministère de l'économie, il a déjà une équipe en place qui travaille sur ce qu'on appelle le point de contact national de l'OCDE pour la conduite des entreprises. Donc c'est en fait une démarche volontaire. S'il y a un problème entre une entreprise, une multinationale, par exemple des salariés ou des riverains de l'entreprise, ils peuvent faire une médiation. C'est sur une base volontaire, l'entreprise y va ou n'y va pas. Si on comprend les réponses que fait le ministère de l'économie, eux, ils aimeraient en fait confier cette future autorité de contrôle sur le devoir de vigilance à ces mêmes personnes qui aujourd'hui assurent le point de contact national de l'OCDE. On est plus sur de l'accompagnement, alors que cette autorité qui va se créer sur le devoir de vigilance, elle devra aussi sanctionner, elle devra être plus coercitive, ce qui n'empêche pas l'accompagnement non plus. Mais voilà, elle a un rôle quand même de faire appliquer une loi, et c'est pas sur base volontaire. Et donc voilà, les ONG, elles, ce qu'elles préconisent, c'est une autorité de contrôle qui soit totalement indépendante, qui ne dépende pas directement d'un ministère. Alors ils prennent pour exemple l'autorité qui existe déjà sur les données, sur la protection des données, qui est donc dirigée par un magistrat et qui est indépendante. Pour eux, c'est une question de crédibilité et de ne pas confondre non plus les rôles entre ce qui est volontaire, ce qui est obligatoire. Et après, voilà, on peut aussi poser évidemment la question du conflit d'intérêts. Une des missions du ministère de l'économie, c'est d'attirer et de conserver des entreprises au Luxembourg. Et donc là, évidemment, il peut y avoir un risque de conflit d'intérêts si on peut se montrer un peu conciliant avec une entreprise parce qu'on a envie de l'accueillir, on a envie d'accueillir son siège au Luxembourg. Et donc, on peut peut-être fermer un peu les yeux sur ce qu'elle fait par ailleurs. Et ce type de doute est totalement entretenu par l'attitude aujourd'hui qu'a le gouvernement sur cette histoire de lobbying, où on voit bien qu'ils avancent cachés, ils ne sont pas transparents du tout. Donc évidemment, voilà, ça ne peut qu'alimenter le doute sur de possibles conflits d'intérêts si l'autorité de contrôle, elle n'est pas indépendante, elle n'est pas formée d'experts aussi, parce que c'est ce que demandent les ONG, c'est qu'on ait des vrais experts en droit humain, en entreprise, et voilà, etc. Ça, c'est un peu une des grandes questions qui se posent aujourd'hui. Est-ce qu'on va créer une autorité de contrôle qui soit indépendante et qui ne dépende pas directement d'un ministère ?
Et cela, on le verra bien alors avec la publication de l'avant-projet de loi ?
On le verra au moment de la publication de l'avant-projet de loi, donc sachant qu'ils ont ils ont plus de 2 ans en fait, hein, pour transposer, pour faire la loi, pour qu'elle rentre en vigueur.
Il faudra attendre alors. Merci beaucoup, Fabien.
Merci.
Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous abonner. Bon week-end et à la prochaine.
Das wäre es für das Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Dinger Creative Commons Lizenz. Ihr fand Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Die Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Dabei auf Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.